réformes les plus récentes de l'enseignement supérieur, aussi contribué à transformer profondément les usages sociaux faits par les étudiants de l'enseignement supérieur, et en particulier de l'université. Aujourd'hui, on a en quelque sorte individualisé très fortement les usages sociaux des formations qu'on propose, en rajoutant officiellement dans les missions des enseignants-chercheurs l'insertion professionnelle des étudiants. Nous sommes donc une sorte de guichet ouvert dans lequel nous sommes sommés de participer à l'insertion professionnelle des étudiants. Donc nous avons en face des étudiants, en face de nous, et ça c'est un changement majeur qui s'est imposé à nous ces dernières années, et on le sent, je dirais, physiquement, corporellement, dans les rapports entretenus avec les étudiants qui nous viennent nous voir en nous sommant en quelque sorte sur le mode de l'appel au secours, de les aider à s'insérer professionnellement. Avec toutes ces nécessités de leur trouver des stages parce qu'ils peinent à en trouver eux-mêmes, alors que nous n'avons jamais été formés pour ça, nous n'avons pas de temps de service. On a rajouté une mission aux enseignants-chercheurs sans accorder le moins de temps de service en termes d'insertion professionnelle. Et encore moins en termes d'insertion professionnelle et de capacité future d'insertion professionnelle des doctorants que l'on forme.
Bonjour, pour ce nouveau numéro de La Perle à rebours, je reçois avec les complicités de Lydie Riollet, Laurent Messager et Yann Le Taïron, Gilda Loirand, sociologue, maître de conférence à l'UFR STAPS, chercheur au Centre Nantais de Sociologie, Patrice Alain, maître de conférence en Infocom et Lettres Modernes, et Camille, doctorante, membre du collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Bon, on est un certain nombre ici à prendre à cœur l'accueil des doctorants qui assurent, on pourrait presque dire, sur le mode du volontariat, des heures d'enseignement, en essayant de leur donner un minimum de formation. Mais ça, c'est sur notre temps de travail, c'est hors de temps de travail, c'est du strict bénévolat. Nous sommes à la disposition des doctorants qui travaillent avec nous en tant qu'enseignants, mais les conseils que nous leur formulons, les échanges que l'on a sur les manières de corriger, d'évaluer, etc., ça se fait au gré à gré. Et selon l'UFR, où l'établissement, où les étudiants et les doctorants vont tomber, eh bien, où ils auront des enseignants bienveillants en face d'eux, ou d'autres qui courront après les publications, les primes à la recherche, etc., n'auront pas une seule minute à leur consacrer dans cette direction-là. Donc tout ça, ça contribue, vous voyez, ces petits morceaux d'existence sociale particulière, dans leur agglomération et dans leur synchronisation, je vous disais tout à l'heure, eh bien, finissent par mettre des milliers de gens, voire des millions, si on fait référence à la dernière manifestation à Paris, des millions de gens dans la rue.
Je surenchéris totalement, c'est-à-dire que
Patrice Alain.
L'accompagnement à l'emploi, par exemple en Infocom, fait partie des missions croissantes qui ne cessent de croître que je tiens dans le département où je travaille, dont je suis responsable du master. L'angoisse par rapport à la sortie de master, l'angoisse par rapport au stage, c'est des dizaines et des dizaines d'échanges qui se font sur la question de la professionnalisation, sur la question de l'angoisse d'être pigiste ou d'être précaire, et toutes ces questionnements finissent par, on va dire, occuper tout le temps de parole qu'on pouvait avoir naguère avec des étudiants. C'est-à-dire, ça vampirise le temps d'échange sur les matières enseignées, le temps d'échange sur les projets de recherche qui pourraient se faire avec les étudiants, la question de l'emploi et de l'angoisse par rapport à cette perspective qui fait qu'on se transforme peu à peu en guichet professionnel ou professionnalisant, où on donne un ticket pour le marché de l'emploi. Hein. On parle aujourd'hui de nos formations en termes d'employabilité. Est-ce qu'elles sont bonnes en termes d'employabilité ? C'est-à-dire que la transmission du savoir devient peu à peu une mission qui prend non plus la fonction dominante, mais qui devient presque secondaire, on peut le dire, pratiquement, quoi.
Camille, le collectif a mobilisé fortement. Vous êtes combien ?
Alors là, on est une soixantaine, ce qui est assez beaucoup.
Pour une doctorante. Oui.
Assez énorme comme chiffre. Pour point de comparaison, c'est à peu près le même nombre qu'il y a sur Lyon, sur Paris. Évidemment, ils sont plus nombreux dans les différentes universités. Et surtout, ce qui nous faisait plaisir, c'est qu'on est représentatif de différentes disciplines. Voilà, il y a des historiens. Alors, il y a beaucoup de sociologues qui ont une culture de la mobilisation assez importante. Mais voilà, il y a des historiens, il y a des mathématiciens, des informaticiens, quelques scientifiques aussi, quelques personnes en langue, où c'est pareil, c'est pas une UFR traditionnellement qui se mobilise trop ces dernières années.
Des juristes ?
Alors, les juristes ne sont pas très nombreux. On aurait eu besoin d'eux pour nous décortiquer aussi la loi travail ces derniers temps. Donc oui, oui, c'est un nombre assez important. Et puis, on a pris conscience, enfin, certains d'entre nous, je pense, le savaient déjà par des mobilisations précédentes, parce qu'on est... On est quelques-uns, par exemple, à avoir déjà participé à l'époque du CPE, à la mobilisation étudiante, etc. Donc on a des souvenirs, mais on n'a plus le même âge, on a changé de statut. Et on s'aperçoit, en tout cas, on s'est aperçu ces derniers mois, que même à un petit nombre, on peut obtenir des choses, ne serait-ce qu'en arrivant à 60, par exemple, au conseil d'administration de l'université, de la présidence de l'université. On a senti, la dernière fois que nous l'avons fait, que les administrateurs de l'université, nous voyant arriver seulement à... On n'était pas tous là, d'ailleurs, on était une vingtaine seulement. Déjà, ça les déstabilisait beaucoup. Et il y a eu... Alors, j'ai pris mes petites notes, mais je ne sais plus exactement quelles universités. C'est à Lyon et Paris. Je ne sais plus si c'est Paris 1 et je crois que c'est Lyon 2. Où, avec ce type d'action... à venir à une vingtaine, trentaine de précaires de l'université, ce qui est un petit nombre à l'échelle du nombre de précaires, mais simplement, cette petite vingtaine arrive au conseil d'administration de leurs universités, ils sont parvenus à obtenir que les salaires des vacataires soient mensualisés, par exemple. À Nantes, nous, pour l'instant, nous ne l'avons pas obtenu, mais on reste mobilisés. Évidemment, il va y avoir la coupure de l'été, on continuera à la rentrée. Et on sent bien que, oui, il y a... Et ça, c'est ce qu'on essaye de transmettre aux étudiants aussi, notamment quand on est avec eux en manifestation ou quand on organise des petits déjeuners un peu militants devant l'université pour se faire connaître, de leur rappeler, parce que je crois que les étudiants sont aussi des gens, effectivement, qui n'ont pas connu de victoire de mouvements sociaux, puisque ce n'est quasiment pas arrivé depuis 2006. Voilà, les retraites, c'était plus ou moins un échec en 2010. Donc, on essaye de leur... Nous, on y croit, on se dit qu'on va y arriver. Parfois, pour avoir fait des piquets de grève avec des ouvriers sur Donge, on est allé les rencontrer, on a fait des moments de blocage aussi avec les cheminots, qui nous transmettaient leurs espoirs. Ils disaient, on ne se mobilise pas pour rien, on se mobilise parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'on va réussir à obtenir des choses. Et c'est le discours qu'on essaie de transmettre aux étudiants aussi. Mais ça prend du temps. Je crois qu'il va falloir recommencer en septembre. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
Mais comment comprendre qu'on essaye individuellement de s'en sortir et qu'on oublie qu'avec un rapport de force, on peut peut-être faire avancer les choses? Ça prend du temps, c'est jamais facile.
Sur la question de l'individualisation, bon, on a affaire, je dirais, à une dynamique sociale assez générale qui force à l'individualisation. On parlait des crédits que les gens contractent, etc. Et donc, au bout du compte, cette idée que dans cet univers soi-disant réputé de plus en plus complexe, de plus en plus incertain, de plus en plus concurrentiel, etc., que celui qui fait ce qu'il faut parviendra à s'en sortir. Et donc, s'est trouvé générer un système de concurrence de l'un contre l'autre qu'on connaît bien dans notre milieu universitaire, puisque avec la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, les contraintes de l'évaluation permanente, etc., et l'affaiblissement de la dotation aux unités de recherche au profit d'une augmentation des dotations faites par contrat, en quelque sorte, par appel à projet, eh bien, les enseignants-chercheurs et les chercheurs se sont trouvés placés en concurrence les uns les autres dans une véritable compétition qui ressemble à une compétition sportive où tous les coups sont bons, parce que là, il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est une plaisanterie, mais à peine, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas et dans quelles conditions sont les différents compétiteurs, ça on ne regarde pas. Et du coup, cette individualisation est renforcée, parce que si des gens sont très peu mobilisés sur le mouvement d'aujourd'hui, ce sont bien les enseignants-chercheurs et les universitaires de manière assez large. Ce qui est assez paradoxal sur un mouvement qui concerne en gros leur public, puisque dans les mouvements antérieurs, ils étaient très nombreux, je pense CPE, CIP, etc. Et là, pourquoi? Parce qu'on a le dossier pour les RSA à remplir, on a le contrat en cours, on a recruté là aussi des précaires et il faut leur donner du travail parce qu'on a un post-doc plus un ingénieur de recherche contractuel, il faut bien donc contrôler son travail pour... permettre qu'ils soient rémunérés à la fin du mois, etc. Donc on est tous dans un système comme celui-ci.
La question de l'individualisation, elle est corollaire de la question du commun. Et justement, la manifestation et les manifestations qui ont eu lieu, que ce soit ici à Paris, que ce soit les tentatives de Nuit Debout, c'est évidemment une réaction contre cette individualisation. C'est-à-dire comment on refabrique du commun aujourd'hui à partir des cendres de ce qui reste, comment on fait renaître du commun de ces cendres. Et je crois que tout ce mouvement, c'est ça. Quand on parle du fameux cortège de tête à Paris, c'est un endroit où la diversité des profils est fulgurante. On croise aussi bien des gens de Sud que des retraités, que des jeunes, où se mélangent très allègrement, on peut le dire, on l'a vu, et c'est pareil dans les manifs nantaises, des cégétistes, au même titre que des autonomes, au même titre que des intermittents, que des lycéens. C'est-à-dire que ce mélange, de fait, il a existé, il existe. Et ce mélange, c'est justement une forme de réponse à cette individualisation. Donc c'est pas un hasard si, quand on a parlé de cortège de tête, peu à peu on est arrivé à Paris à entendre la notion de maison de tête. Ah, ça c'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que pourquoi aussi sur la place de la République, les charges les plus violentes, et quand les forces de l'ordre ont décidé de vider République, c'est quand ils ont commencé à construire en dur. Et ça nous renvoie évidemment à la recherche d'un commun. Et ça nous renvoie ici à Nantes, évidemment, à la ZAD, c'est-à-dire un espace commun qui se construit, où les gens construisent collectivement, développent une réflexion autonome et horizontale qui fait participer des expériences individuelles, qui est une somme d'individus qui se délèguent dans un collectif dans lequel ils se reconnaissent. Et moi, je pense que ces manifestations, c'est les prémices de la construction d'un nouveau commun. Un nouveau commun qui met, je dirais, quelque part, du côté des vieilleries, la représentation parlementaire, politique, la représentation, le régime parlementaire des partis, la spécialisation, car qui dit individualisation dit aussi culture de la spécialisation. Et là, au contraire, c'est la circulation des savoirs, c'est comment je vais brancher des haut-parleurs sur un réverbère, comme on a pu le voir à Nantes, pour faire un concert sauvage à nuit debout. Et « Ah tiens, tu sais faire ça, ouais, moi je suis électricien, tiens, c'est intéressant. » Circulation création d'un commun, circulation de savoirs qui sont des savoirs séparés, partage d'expériences, puis aussi partage d'une certaine offensivité, comme ça s'est fait dans les rues, c'est-à-dire que les street medics, c'est-à-dire tout ce qui s'est créé spontanément pour protéger les manifestants, avec des gens qui sont identifiés, des casques blancs, avec des croix rouges, avec du sérum, c'est une forme de bienveillance commune qui a surgi dans ces mouvements, il y avait des gens qui aidaient dans les manifestations. Là, il y a réellement un corps collectif qui se met à l'intérieur du corps collectif pour le servir, pour l'aider, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, enfin à mon sens.
Et si je peux me permettre, un danger social et un danger apparent pour l'ordre social, puisque tout le point de vue qui domine sur le traitement en termes de maintien de l'ordre des manifestations est celui du refus de voir un collectif cohérent. Comme disait Durkheim, l'essentiel, c'est que les gens soient rassemblés pour assurer la solidarité. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les gens se rassemblent. Ils se rassemblent dans des cortèges de manifestants. Donc ça pose un problème parce qu'il faut distinguer un ennemi dans cette affaire. Et l'ennemi, c'est le casseur, indépendamment de ce qui constitue ce groupe des casseurs et des exactions soi-disant commises par ceux-ci. Donc les casseurs, c'est un groupe totalement composite, qu'on peine d'ailleurs, c'est ce que j'avais souligné dans ma critique à l'essai Ouest France, c'est un sujet éminemment fantasmé. On va jusqu'à aller parler de sergents recruteurs qui iraient dans les banlieues recruter des trublions, etc. Donc c'est un sujet extrêmement fantasmé. Pourquoi ? Parce que je dirais que dans les deux cas, on a besoin... Bon, on voit très bien que si on prend l'autre bout, du côté des forces de l'ordre, on voit bien qu'il y a aussi des policiers qui ne sont vraiment pas heureux d'être là. On a eu des échanges avec des CRS syndicalistes effrayés, pouvant même, je dirais, s'offusquer devant les manifestants qui leur faisaient face, que le prix de l'hélicoptère comptait aussi sur leurs propres impôts. Donc c'est hallucinant. Et on voit bien que des deux côtés, il y a une sorte de nécessité à désigner le flic comme un tout cohérent, alors que ce n'est pas le cas d'un côté. Et de l'autre côté, pour les flics, de voir dans tout manifestant un casseur ou à tout le moins un casseur potentiel. Donc ce qui justifie toutes les formes d'action de maintien de l'ordre, c'est tout à fait inédite pour des vieux suiveurs de manifestations depuis maintenant plus de 30 ans. On voit bien qu'il y a des formes totalement inédites de maintien de l'ordre qui tendent finalement à justement détruire ce que constitue la collectivisation des luttes en individualisant. Couper un cortège, c'est quoi ? Eh bien c'est en faire des petits groupes alors que ceux-ci n'existent pas. Voilà ce à quoi on assiste. Et le danger, c'est justement la constitution solidaire de mouvements dans lesquels les gens se retrouvent et s'expriment. Et c'est bien ça le danger. Ou du moins, je n'y vois pas un danger personnellement, puisque c'est, je dirais, toute la dynamique de la démocratie est historiquement construite là-dessus.
Gilles Dalloiran, sociologue, maître de conférences à l'UFR STAPS, chercheur au Centre Nantais de Sociologie, Patrice Alain, maître de conférences en Infocom et Lettres Modernes, et Camille, doctorante, membre du collectif des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont les invités de La Perle à rebours.
n'y a pas un danger. Mais sur les formes que prend aujourd'hui la démocratie moderne, mondialisée, appuyée très clairement sur la finance, on voit comment les Anglais s'en défient à leur mesure en militant pour le Brexit, c'est-à-dire pourquoi ? Bien pour justement, là encore, une sorte de refus de s'associer dans un collectif qui les dépasse. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de fantasme sur le danger social et politique que représenterait toute forme d'association autour d'un projet politique et d'un projet de société, parce que si les gens qui se rassemblent ici ne savent pas toujours clairement ce qu'ils veulent, je pense qu'ils expriment très clairement ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est déjà beaucoup.
Stigmatiser le manifestant, ne le démotive pas.
Non, justement, ça ne marche pas. Les manifestations interdites ont été outrepassées, justement, mais on est quand même dans une situation inédite. C'est-à-dire que tout est fait pour briser cet élan collectif. Ce que disait Gilda, la coupure du cortège, au-delà même de l'acte physique, c'est un acte fortement symbolique. C'est-à-dire, c'est de créer de la séparation. Et l'interdiction de la manifestation, c'est éviter le collectif. C'est-à-dire qu'en face, on a un État qui se sent agressé par toute forme de commun qui pourrait se constituer en représentativité et donc finalement délégitimer. C'est-à-dire que ce que l'État comprend, c'est que s'il y a une forme de collectif qui est en voie de sécession par rapport à l'État, qui ne se reconnaît plus dans l'État et dans ce qu'il représente, dans ce qu'il est censé représenter. Et donc, effectivement, on a des mesures totalement inédites. Gilda a parlé de la violence. On va dire des réponses asymétriques en termes d'incidents que peuvent provoquer les manifestants et la violence policière, les grenades de désencerclement, les blessés qu'il y a eu le 14 juin. C'est une réponse qui est à la mesure de quelque chose qui se crée et qui n'est pas une émanation de l'État, mais qui est une émanation d'une société qui est dépossédé d'un commun, voilà. Qui ne se voit dicter que des impulsions à l'achat, que des rapports au crédit, etc., etc.
On voit bien que de toute façon, la présence du bleu, comme vous l'avez évoqué, est un facteur éminemment déclenchant de dégradation, etc., etc., qui deviennent au bout d'un moment finalement peu rationnels hein, entre le mobilier public et les banques, etc. Je veux dire, il y a, de toute façon, les casseurs, ce n'est pas une catégorie homogène, et les gens cassent certaines choses, d'autres pas, etc. Bon, le problème, c'est que notre tolérance à la violence exprimée s'est clairement affaiblie. Si on regarde les images nantaises de mai 68, on est frappé de voir des gens avec des gourdins. Alors bien souvent, ce qui est intéressant, c'est même avec des gens avec imperméables et cravates, hein, des casques sur la tête en train de dépaver un peu partout. Si on se réfère aux mouvements sociaux, aux mouvements ouvriers, alors effectivement, le point focal de la lutte n'était pas l'État comme aujourd'hui, mais le patronat, on avait des gens qui intervenaient contre les forces de l'ordre avec des machines à sabler des bateaux, avec de l'air comprimé à haute pression, pour lesquels on avait fabriqué des munitions spéciales en acier pour tirer sur la police. Donc vous imaginez aujourd'hui ça ? Enfin, c'est pas possible. On a un degré de violence dans les manifestations qui est beaucoup plus faible que par le passé.
Du côté des manifestants.
Ah, du côté des manifestants. Du côté des manifestants. Et pour l'asymétrie que tu évoquais, effectivement, elle est là parce que du côté des forces de l'ordre, on assiste à un équipement extrêmement individualisé. C'est pour ça que ce qui m'intéresse pendant les manifestations, c'est la dimension corporelle. C'est-à-dire qu'une manifestation est toujours, pour une part, une subversion par corps. Ce sont des corps qui s'exposent, finalement, qui s'exposent. Ils s'exposent d'autant plus qu'ils se trouvent exposés par la présence des forces de l'ordre. Si on regarde la manif du 1er mai, les gens qui, habituellement, sont identifiés comme des gens susceptibles de faire déraper les mouvements, étaient bien présents. Il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que, à aucun moment, on a aperçu le moindre policier ou gendarme dans les abords immédiats de la manifestation. Au point que, on a eu affaire à ce graffiti, qui disait « Les casseurs respectent leurs acquis sociaux, le 1er mai, ils ne travaillent pas. » Voilà. Donc, ils auraient pu travailler. Si on leur avait mis... je dirais des dispositifs policiers habituels, je pense qu'ils auraient travaillé comme les autres jours de la semaine ou de l'année. Donc, point de plaisanterie, c'est vraiment, effectivement, une forme de maintien de l'ordre qui, justement, là aussi, en contrepoint, est individualisée. C'est-à-dire aux charges massives, visant à protéger et à préserver des espaces, etc. Aujourd'hui, on a des armes qui blessent individuellement les individus. C'est-à-dire renvoyant chaque manifestant à sa condition d'individu et non plus de membre d'un collectif manifestant. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Et les effets sont peut-être là. Alors on voit que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les gens, finalement, eh bien, ils se prennent des coups, mais ils reviennent.
sur les interdictions de manifestation ou les tentatives d'interdiction, ça démontre la faiblesse d'un pouvoir.
C'est prendre le prétexte d'un état d'urgence justifié par une toute autre raison, interdiction de manifester dans les deux sens, c'est-à-dire interdiction individuelle de participer à des manifestations d'une part, c'est-à-dire assignation à rester chez soi, et interdiction, cette fois collective, c'est le pas a été franchi, c'est-à-dire qu'on a essayé d'interdire à des individus d'y participer en se disant, bon, ça a peut-être calmé quelques velléités d'y aller. Non, ça n'a pas marché, au contraire. Donc du coup, on s'est mis à interdire ou à proposer d'interdire les mouvements dans leur ensemble, au motif d'absence de syndicats. Endossant la responsabilité. Mais où est-ce qu'on a vu des syndicats endosser la responsabilité d'une manifestation? C'est une plaisanterie. Dans l'histoire, nulle part. Donc, on force à désigner un responsable. Aujourd'hui, une manifestation doit avoir un responsable. Non, mais bon, c'est lui n'importe quoi. On va bientôt avoir un formulaire à remplir, explicite, avec les noms des responsables. Et on va nous demander si on est titulaire d'une assurance responsabilité civile qui couvre les risques encourus par la participation ou l'existence même d'une manifestation. Enfin, on en est là. C'est un droit constitutionnellement garanti, on ne va pas revenir là-dessus.
Il y a une page, oui, Nantes Révoltée, qu'est-ce qu'on en dit?
Sur la page de réseau social qui s'appelle Nantes Révoltée, qui existe d'ailleurs, me semble-t-il, depuis bien avant le début de la loi travail,
sûr,
elle a 2-3 ans, peut-être plus. Il s'agit avant tout d'un média alternatif. C'est une page d'information, c'est ce qu'eux disent et s'échinent à dire depuis le début. Et c'est le sentiment qu'ont beaucoup de manifestants aussi. Et on est nombreux, à chaque fois qu'il y a une manifestation, une des premières choses qu'on fait le soir, on fait deux choses. On va voir le fil d'actualité d'une certaine presse locale et puis on va voir le compte-rendu de la page du réseau social de Nantes Révoltée. Et c'est quelque chose qui sert beaucoup pour alors, qu'évidemment qu'il y ait des militants et des activistes derrière, sans nul doute. Mais bon, on peut avoir aussi plusieurs casquettes. Ça peut être... Sans doute des journalistes indépendants et puis aussi évidemment des militants. Est-ce qu'ils vont casser les vitrines, etc. On n'en sait rien. Mais ce qui est pas très intéressant, c'est que je pense que personne n'en sait trop rien, y compris les journalistes qui les interviewent et qui vont vouloir aller très vite pour tout de suite identifier.
Stigmatiser
parce qu'on
veut,
parce qu'on veut absolument. Absolument qu'il y ait des gens qui organisent la casse dans les manifestations. Ça, et comme les camarades l'ont dit, vous permettez que je vous appelle les camarades, l'ont dit, ces fameuses casses sont faites par des groupes extrêmement composites et homogènes, et alors bien malin celui ou celle qui pourrait se targuer de les avoir organisées, de les maîtriser, de les comprendre, de les connaître. Ces composites, c'est voilà. Et Nantes Révoltée avant tout. C'est un média d'information. Qu'est-ce que c'est d'autre? Encore une fois, bien malin qui le sait, mais...
Ça remplace d'autres modes de circulation d'information qui existaient avant que ces réseaux sociaux existent. Mais à d'autres moments, les gens savaient très bien que ça se passerait à 17h30 devant la préfecture, à la fin des manifestations, on va dire, correctes, et les gens s'y retrouvaient sans avoir besoin d'une page comme celle-ci. Et donc là, c'est encore plus difficile d'imputer une responsabilité. En quelque sorte, l'existence de la page en question a donné prise, en fait, à l'idée qu'il y aurait des manipulateurs qui agiteraient les choses dans les coulisses. Bon, alors ça, c'est un grand classique.
L'affaire d'Arnaque, c'est-à-dire fabriquer un ennemi intérieur par une campagne de presse qui va permettre après d'agir, les faits de presse devenant des faits avérés, la suspicion devenant une preuve, et effectivement après de nourrir des procès d'intention par rapport à des polémiques qui ont été créées par les médias. Je rappelle que les médias, en dehors d'alternantes, 95% des médias français appartiennent à moins de 10 groupes multinationaux. Voilà.
Je veux signaler qu'il y en a aussi.
Ça, tu m'as coupé, je sais.
Non, mais je veux dire, si je garde, je signale qu'il n'y a pas qu'alternante.
Il y a Doc Durel, il y a Taranis, il y a une efflorescence de médias sociaux alternatifs qui sont suivis et qui ont explosé, qui sont déjà là, qui existaient déjà. Taranis qui relaie les luttes sociales. Il y a une efflorescence qui rejoint celle des années 70, c'est-à-dire, à l'époque, c'était des fanzines. Là, c'est sur les médias sociaux, c'est les Doc Durel, c'est Taranis, c'est Paris Lutte Info, évidemment. Il y a une renaissance des médias alternatifs très très forte. Alors évidemment, c'est exactement comme les street medics, l'État les cible, parce que ça fait partie d'une force commune, et d'une force commune qui s'exprime.
Donc, on le sait d'autant mieux que concernant les printemps arabes que vous évoquiez tout à l'heure, les mobilisations, elles se sont opérées très majoritairement via ce genre de réseau. Pour autant, bon, et c'est ce que j'avais exprimé moi précédemment, c'est que si véritablement des responsables de pages Facebook étaient en même temps responsables de la lutte et de la mobilisation des clandestins intervenant dans les manifestations pour tout casser, Black Bloc et autres, je pense que nous avons quand même une justice et une police assez active et que ces gens auraient été attrapés depuis très longtemps et jugés. Hein. Donc là, on cherche en vain. Alors, ou c'est un aveu d'incompétence totale de la police et de la justice en la matière, ou il n'y a pas, de ces fameux meneurs qui, dans les coulisses, agiteraient toutes les ficelles de la subversion radicale.
Il est temps de s'effacer quelque peu pour donner tribune à notre chorale de la Perle, avec Lydie et Laurent, qui m'ont demandé une petite faveur.
La surprise, c'est que les violences policières nous coupent les cordes vocales, et donc ce soir, on ne chantera pas. On va vous réciter un poème qui peut-être va permettre à quelqu'un de s'exprimer, qui n'est pas forcément un sociologue, qui n'est pas forcément un philosophe, mais qui avait envie, avec poésie, de remarquer son temps et d'une version qui lui appartient. On y va, ça s'appelle « Folle déliée ».
Je vis dans un monde de plus en plus étrange, dont la violente folie m'échappe et les soucis lentement me mangent, à moins qu'ils ne m'écharpent.
Des chats rassasiés de bois tuent, toujours des proies dans les prés.
Des humains affamés meurent de solitude dans les villes surpeuplées.
Des jeunes attardés se battent pour des billets ou de l'avancement.
Les ronces et les frênes coupées repoussent chaque année obstinément.
Et chacun râle abondamment sur les choses qui vont de mal en pis.
Sans rien faire d'autre qu'alimenter le sein empoisonné qui les nourrit.
Je navigue à vue dans un monde statique. Déréglés et aveugles, ils tâtonnent dans le noir. Pour échapper à la mort au bout du couloir, un monde qui noie les cerveaux éthyliques.
Où personne n'est à l'abri de rien, où des bestioles minuscules vous tuent pour rien. Un monde débordant de fous, où tout le monde ment sur tout.
Par intérêt ou pour fixer quelques souffrances, où les vraies camisoles sont invisibles. Et où les délires se tapent sur ordonnance. Et le pire, dans ce triste univers,
c'est que tout le monde me regarde de travers, l'air surpris et inquiet, comme si j'étais folle.
Merci à Gilda Loiran, Patrice Alain et Camille pour leur libre participation à ce numéro de La Perle Arbour, réalisé avec les complicités de Lydie Riollet, Laurent Messager et Yann Le Taïron.
Ça nous allait très bien parce qu'on ne peut pas être dans la réponse. C'est vraiment ce soir, c'est un vrai débat. Pour moi, c'est très très fort dans l'engagement des gens qui participent à ce débat. Là, c'est la réalité. D'ailleurs, demain, vous avez la conférence de presse.
On n'est pas en direct.
Donc, il y a eu, où il y aura une conférence de presse sur les victimes des violences policières. Et ce sont des gens qu'il faut entendre. Non pas écouter, mais entendre. Que ce soit une chose. Parce que ces gens-là s'appuient sur des faits et les réalités sont physiquement marquées. Donc là, on ne peut pas s'écarter des réalités. Et je crois que c'est tellement parlant qu'il va falloir enfin écouter cette population qui.